Alors, je voulais simplement lire un verset dans l'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 1. Prenez votre Bible si vous l'avez. Ecclésiaste chapitre 4, verset 1. Alors, je n'ai pas la Bible pour les jeunes. Je ne sais pas quelle page c'est dans la Bible pour les jeunes. Mais voilà, Ecclésiaste, c'est après les proverbes. Les psaumes, les proverbes, ça va. L'Ecclésiaste chapitre 4, verset 1. Et donc, l'auteur, qu'on pense être Salomon, je pense, mais peu importe, l'auteur de ce livre dit « Je me suis tourné et j'ai regardé toutes les oppressions qui se font sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et il n'y a personne pour les consoler. Et la force, la violence est dans la main de leurs oppresseurs et il n'y a point pour eux de consolateur. Il y a beaucoup d'oppression. Dans notre monde aujourd'hui, il y a les enfants, il y a les femmes, il y a les esclaves, il y a les pauvres qui sont aussi opprimés. La violence est dans la main de leurs oppresseurs, c'est vrai. La persécution est une de ces formes d'oppression. Et il n'y a personne pour les consoler, dit l'Ecclésiaste. C'était au Vietnam. C'était un couple pastoral, lui était pasteur et avec sa femme, il vivait là-bas dans une campagne du Vietnam et puis les communistes sont arrivés, c'était dans les années 70, et lui il est arrêté, il est emprisonné, l'église ne se réunit plus, cette femme de pasteur se retrouve toute seule, personne pour la consoler. Et puis un jour, on vient lui dire « Ton mari est mort en prison. » Et quelque temps après, le responsable communiste de la région vient la voir et lui dit « Écoute, remarie-toi avec moi, tu vois, je prendrai soin de toi, de votre enfant, et puis tu n'auras plus de problèmes matériels, tout ira bien matériellement pour toi, remarie-toi avec moi. » Alors elle dit non, et puis comme il revenait à la charge, au bout d'un certain temps, elle finit par accepter. Elle se remarie avec lui jusqu'au jour où on lui dit « Ton mari arrive, il est sorti de prison. » Personne pour la consoler, personne pour la guider. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a supprimé sa vie. Vous voyez, comme il est important de ne pas oublier ses frères et sœurs qui sont là-bas dans ces pays et qui souffrent pour le beau nom de Jésus, être à côté d'eux, aller les visiter, les voir, les encourager, leur dire on vous a pas oublié, on pense à vous, on vient prier pour vous, mais aussi prier avec vous. Voilà ce qui peut les encourager. Paul l'a connu cela, il était en prison à Rome et dans 2 Timothée chapitre 1 verset 15 à 18, il a travaillé toute sa vie, il a implanté de nombreuses églises, de nombreux groupes de chrétiens partout, dans une grande partie du bassin méditerranéen. Il a travaillé toute sa vie. Et il est en prison à Rome, et il écrit à Timothée, son enfant bien-aimé. Il lui dit, tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. 2 Timothée 1, verset 15. Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il m'a souvent consolé. Et il n'a point eu honte de ma chaîne. Mais quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement. Et il m'a trouvé. Voilà un frère qui voulait aller consoler Paul. Alors il est allé à Rome, il a pris du temps, il a pris des sous, et il est allé jusqu'à Rome, et là il a cherché Paul. Il l'a cherché avec empressement, et il l'a trouvé. Il m'a cherché très soigneusement, et il a fini par le trouver. Alors essayez d'imaginer, hein. Imaginez Paul au fond de sa prison. Hein? Oh, je ne pense pas qu'il se plaignait, mais il se sentait quand même abandonné. Et puis, voilà que tout à coup, la porte s'ouvre. Il n'entendait pas dans le couloir, la porte s'ouvre. Il ne sait pas si c'est quelqu'un qui vient le chercher pour être exécuté. Mais dans la pénombre, dans le noir, là, tout à coup, il voit une forme qui arrive. Et puis, une voix. Une voix qui lui dit, « Paul, c'est toi ?» Et il reconnaît la voix. C'est la voix de quelqu'un qu'il connaît. La voix de quelqu'un qui l'a souvent consolé. C'est la voix d'Onésiphore. « Ah, oh, Onésiphore, tu es là ? Tu es venu jusqu'ici ? Tu m'as trouvé ?» Ah, quel moment ! Quel moment béni pour l'apôtre Paul ! Quel encouragement pour lui ! Hein ? C'est vrai que le Seigneur était là avec lui, il l'a aussi consolé, mais d'avoir un frère qui est là, qui vient vous dire « Paul, je t'aime ! Paul, je prie pour toi ! Paul, je ne t'ai pas oublié ! Je ne t'ai pas abandonné ! » Quel encouragement pour l'apôtre dans sa souffrance. Alors, continuons à prier. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, frères et sœurs. Continuons à prier pour ces frères et sœurs qui sont persécutés pour le beau nom de Jésus. En Corée du Nord, ils viennent de fêter le 100e anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, avec un grand défilé militaire qui a coûté beaucoup d'argent dans un pays où beaucoup de gens meurent de faim. Où il y a la famine. Hein? Et il y a dans ce pays, c'est un pays, c'est impressionnant, c'est un pays où il est interdit d'être chrétien. Hein? J'ai eu l'occasion de causer à un moment donné avec le guide là-bas, et tout à coup je lui dis, je crois en Dieu. Je crois que c'est Dieu qui a créé l'univers. Ah, il s'est mis dans une colère noire. Puis tout à coup, il a réalisé que j'étais pas un Nord-Coréen. Alors il s'est calmé. Mais j'étais Nord-Coréen, j'étais éliminé. Mais prions pour ces frères et sœurs qui, là-bas en Corée du Nord, sont obligés de cacher leur Bible. Si la police détecte qu'ils ont une Bible, ils sont envoyés dans ces camps d'extermination. S'ils ont distribué quelques Bibles, eh bien, ils sont exécutés en public. Voilà, il est interdit d'être chrétien dans ce pays de Corée du Nord. Alors prions, n'oublions pas ces frères et sœurs là-bas, et prions pour que ce nouveau dirigeant, eh bien pour que la vérité soit, les choses viennent à la lumière, et que tous ces mensonges, Dieu n'existe pas, eh bien viennent à la lumière, et que ces Nord-Coréens puissent avoir la liberté, que ce dirigeant, ce petit-fils de Kim Il-sung, eh bien puisse accorder, réaliser ce qu'il fait et accorder la liberté aux chrétiens dans ce pays. Mais prions, continuons à prier pour ses frères et sœurs dans ce pays. Il y avait un fil rouge sur le Nigeria il y a quelque temps, et ce fil rouge que je retrouve là, certains connaissent peut-être le fil rouge, c'est un message par Internet que nous envoyons tous les mercredis, vous voyez, c'est juste une page avec juste quelques informations et quelques sujets de prière pour prier pour ces chrétiens persécutés. Eh bien, ce fil rouge du 11 avril disait, voilà, 17 jeunes filles chrétiennes qui ont disparu là-bas dans le nord du Nigeria, alors qu'elles se rendaient dans leur nouveau lycée. D'après des sources sur place, les disparitions de jeunes chrétiennes sont fréquentes. Ça arrive pas seulement dans le nord du Nigeria, ça arrive aussi à Bethléem, ça arrive aussi dans ces régions. C'est fréquent dans le nord du pays, où les extrémistes mènent une véritable guerre sainte contre la communauté chrétienne là-bas dans le nord du Nigeria. Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans qui aiment les chrétiens, il y en a qui les défendent. Mais voilà, il suffit de quelques-uns pour persécuter nos frères et sœurs et pour tuer ces chrétiens qui sont dans le nord du Nigeria, là, dans les États où la charia a été déclarée, a été mise en place en 2000. Il y a 12 États dans le nord du Nigeria où il y a la charia. Et ça se voit tout de suite quand vous voyagez dans ces États. Vous savez, vous êtes dans un État du sud où il n'y a pas la charia, comme par exemple l'État du Plateau. Alors quand vous circulez dans la rue, vous voyez plein de panneaux d'église, ici, église baptiste, culte le dimanche à telle heure, Et puis ici, église Saint-Paul, et puis ici, église Assemblée de Dieu, avec le culte à telle heure, et puis ici, Living Bible Church, même s'il parle anglais là-bas. Hein. Et puis voilà, et puis tout à coup, vous continuez de rouler, et puis tout à coup, il n'y a plus un panneau, c'est fini. Vous êtes rentré dans un état où il y a la charia. Il n'y a plus un seul panneau, il n'y a plus une seule église. Si, il y a encore des églises dans le nord, mais il n'y a plus de panneaux qui annoncent ces églises. Hein. Alors, on le voit, et ce sont ces frères et sœurs qui sont là-bas dans le Nigeria sont particulièrement frappés. Vous entendez parler à la télévision, aux informations de ces attaques. Alors, les informations à la télévision ne sont pas toujours exactes. Ils parlent de conflits ethniques. Alors, c'est vrai que la majorité des musulmans sont des Hausa, la majorité des chrétiens sont des Fulani. Alors, c'est facile de dire que c'est un conflit ethnique entre Hausa et Fulani. Mais ce n'est pas cela. Hein. Ce sont des combats où des gens armés vont détruire les églises et tuer les pasteurs. Ils disent « Où est le pasteur ? Où est le pasteur ? On veut le tuer ?» et tuer les chrétiens, et spécialement les hommes. Et donc, je vous disais, 800 veuves, 2000 orphelins, 300 églises détruites là-bas dans le nord du Nigeria. Et ça continue avec ce groupe Boko Haram qui, avant, ces extrémistes attaquaient les chrétiens avec des machettes. Aujourd'hui, ils arrivent avec des armes sophistiquées. Et donc, il est difficile à ses frères et sœurs de ne pas répondre. Il est difficile à ses frères et sœurs de pardonner. Il est difficile à ses frères et sœurs de vivre dans ce contexte-là. Alors, prier pour notre bureau là-bas dans le nord du Nigeria, ce sont des frères et sœurs nigérians qui tiennent le bureau de portes ouvertes là-bas et qui sont particulièrement courageux, qui vont apporter de la littérature chrétienne dans les villages chrétiens. Dans le nord, il y a des villages chrétiens qui vont faire des formations bibliques pour aider ces chrétiens à tenir ferme dans la foi et puis à partager leur foi aussi, apprendre à partager leur foi avec leurs concitoyens, avec les gens, les musulmans qui vivent là-bas dans le nord du Nigeria. Et il y en a aussi un qui fait responsable de la recherche. Donc dès qu'il y a des assassinats, dès qu'il y a des églises détruites et des chrétiens tués, il va là où ça s'est passé, et puis il prend des informations et il apporte de l'aide matérielle à ses chrétiens, à ses veuves, et puis il revient au bureau et il envoie les messages et nous pouvons ensuite diffuser ces messages par Internet ou par ce magazine Portes Ouvertes. Alors, je pourrais continuer, hein, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et simplement, ce message, il est tout simple ce matin. Priez. Priez, ne baissez pas les bras. Ne dites pas, oh, ça y est, c'est fichu, c'est ce printemps arabe, il a raté. Alors, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Hein ? Non, c'est le moment. C'est le moment de mener ce combat spirituel, hein, contre ces puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes et pour que le royaume de Dieu avance. Ce royaume d'amour, ce royaume de paix, ce royaume de l'amour de Dieu. Hein. Et c'est comme ça que cet évangile se répand. Il y avait un frère en Mauritanie qui a été arrêté, torturé par des policiers, et puis il a été relâché, et quelques temps après, il se retrouve, bon, je raccourcis, hein, il se retrouve dans un bus collectif qui a un accident, et puis tout le monde sort de ce bus, tout le monde était plus ou moins blessé, mais il restait encore une personne dans le bus, c'était un policier. Alors, ce frère va chercher le policier dans le bus et il le sort du bus avant que le bus ne prenne feu, il lui sauve la vie. Et puis, tous ces gens blessés vont aux urgences, et là, aux urgences, il y avait là un policier qui devait décider qui devait être soigné en premier. Et donc, quand il voit ce groupe de gens blessés qui arrivent, eh bien, il dit, il voit qu'il y a un policier parmi ce groupe de gens. Il dit, toi, policier, voilà, viens vite, tu vas être soigné le premier. Et le policier dit, non, 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 c'est pas moi qui dois être soigné le premier, c'est ce monsieur-là, parce qu'il m'a sauvé la vie. Et ce policier des urgences regarde, qui a sauvé la vie à un policier? Et il voit, c'est le frère qui l'a torturé quelque temps auparavant. Et il lui dit, toi, comment c'est possible? tu as été torturé par un policier et maintenant, aujourd'hui, tu sauves la vie d'un policier. Mais je ne comprends pas. Explique-moi. » Alors, ce frère dit, « Bien, parce que Dieu a changé mon cœur, parce que je connais le Dieu d'amour. Et ce Dieu que je connais, à qui j'ai donné ma vie, ce Jésus qui est mon sauveur, eh bien, il m'a dit, « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous font du tort. » Voilà ce qu'il a dit. Et ce policier dit, « Eh bien, moi, je le veux. Ça aussi, je le veux. » Voilà, c'est par le témoignage difficile à travers, c'est vrai, la souffrance de nos frères et sœurs que bien souvent l'évangile se répand, l'évangile de la gloire de Dieu. L'apôtre dans 2 Corinthiens chapitre 4 nous dit, nous avons ce trésor, quel trésor ? La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, voilà ce trésor que nous avons. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduit à l'étroit. Dans la perplexité, mais non pas sans ressources. Persécuté, mais non pas abandonné. Abattu, mais ne périssant pas. Portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Si nous voulons que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps, alors il nous faut mourir à nous-mêmes. Et c'est une souffrance, c'est vrai. Et nous n'avons pas envie de passer par là. Mais pourtant, il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin de la croix par lequel nous pouvons, par lequel Christ peut enfin vivre en nous et manifester la gloire de Dieu, où nous pouvons manifester la gloire de Dieu.